France Culture.
En hiver, on allait faire du ski tous les après-midi, on montait à 5 heures et dans la petite infirmerie du Prévent, on se faisait du thé. En rentrant du ski, on se faisait du thé. Et puis après, quand la neige a disparu, ben l'après-midi, on allait se balader. Et je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai lu.
Les enfants cachés de Prélanfray, par Dominique Prusac et François Teste. Premier épisode, le quotidien au Préventorium. Dominique Lardet, vous habitez Prélanfray. Vous êtes autrice d'un livre intitulé « Les enfants cachés des tilleuls 1935-1946 » qui se déroule à Prélanfray. Alors, où se trouve Prélanfray sur une carte de France ?
Prélanfray se trouve dans le quart sud-est de la France. Il est à 27 km au sud-ouest de Grenoble. Et c'est un village de moyenne montagne qui s'étage entre 900 et 1000 mètres à peu près d'altitude, au pied des falaises du Vercors, qui le domine à 2000 mètres, qui le domine par une barrière quasiment infranchissable, en tout cas qui a beaucoup plu aux alpinistes.
Ici, nous sommes en pleine nature. Pourquoi nous avoir emmenés ici, Dominique ?
Parce que ce village tout petit a une grande histoire, l'histoire de sauvetage d'enfants et d'adultes juifs pendant la guerre. Et que cette histoire m'a été révélée sous un jour nouveau, à travers des textes écrits par des enfants dans des cahiers, que je peux appeler les cahiers des tilleuls.
...1937, la vie aux tilleuls.
Cet hiver, nous avons fait beaucoup de ski et aussi de la luge. Pour la noce de Monsieur Auguste, nous nous sommes bien amusés. Les sapins couverts de roses étaient très jolis. On a tué les poules et le matin, nous avons fait une belle promenade. Puis quand la mariée est arrivée, on a crié « Vive la mariée !» On a aussi mangé les restes des pièces montées et du poulet. Cela a été délicieux. Les tilleuls, après, ont repris leur vie habituelle. Pendant le printemps et l'été, on s'est beaucoup mieux amusé. On a fait de grandes promenades, comme le col de l'Arzelier et le col vert.
Dominique Lardet, ils portent un nom assez pittoresque, les gens qui habitent ici, les habitants d'ici, non ?
Ils s'appellent les Palanchous et les Palanchounes, car autrefois, Prélanfray se disait Palanfray, c'est-à-dire le pré de l'Anfray.
Et il y a combien d'habitants maintenant à Prélanfray ?
Oh, maintenant, je dirais que c'est plus de 300. Le village est en pleine expansion, il est dans la métropole de Grenoble. Mais à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale, la population se montait à peu près à 180-200 habitants maximum. Maintenant, c'est presque une banlieue de Grenoble. Or, justement, pour l'époque qui nous intéresse, eh bien, c'était un village retiré et un village secret qu'on ne voit pas d'en bas, qui est entouré de montagnes. Parce que, outre la falaise et les falaises du Vercors, nous avons d'autres petites montagnes qui vont entre 1200 et 1500 mètres d'altitude et qui cachent le village de la vallée de la Grèce qu'il domine pourtant. Sans la voir.
Dominique Lardet, nous sommes un peu descendus dans le village et nous sommes là à côté d'un... On entend un bruit d'eau, un bruit de rivière, pourquoi ?
Parce que c'est le brouillon, justement, qui traverse Prélanfray de part en part. C'est un petit ruisseau qui descend des montagnes et qui va jouer un grand rôle dans la prospérité et dans l'évolution de la collectivité.
Parce que là, justement, il y a un endroit où il existait une centrale électrique, hydroélectrique.
Alors, la centrale hydroélectrique s'est faite en deux fois. D'abord, en 1912, lorsque la famille Lamorte rachète la scierie Berthelot devant laquelle nous nous trouvons actuellement, et avec la promesse d'électrifier le village. 1912, donc, première électrification du village à partir de la turbine de cette scierie qui a été modernisée par Jean-Joseph Lamorte, le père d'Hélène Guidi, dont nous parlerons tout à l'heure. Cette scierie a donné du travail à des Palonchous, mais aussi a diffusé l'électricité dans les fermes. C'est-à-dire qu'on pouvait lire le journal le soir en rentrant du travail. On pouvait repriser le linge. On pouvait, dans la journée, faire tourner une machine. Et c'était quelque chose de complètement nouveau. Et les premiers hôtels ont vanté, bien sûr, leur confort en parlant de l'électricité. C'était aussi important que d'avoir, par exemple, l'eau sur l'évier, ce qui était rarissime à l'époque.
1939, les deux réfectoires, Prévan et Tilleul.
Parlons du réfectoire du Prévan. C'est une grande pièce, un peu nue peut-être, car n'étant pas peinte. Mais j'ai l'impression que quelques tableaux viendraient lui donner un aspect un peu plus riant. Néanmoins, c'est une pièce bien éclairée, grâce aux grandes baies qui laissent passer lumière et soleil.
Dominique, qu'est-ce qu'un préventorium ?
Ah, un préventorium. Un préventorium, c'est préventif. C'était une structure qui était créée pour protéger les personnes qui étaient exposées au risque de tuberculose ou qui avaient commencé à avoir une petite atteinte de tuberculose, qu'on appelait une primo-infection. C'était aussi un endroit qui faisait, c'était un lieu de cure où les pensionnaires devaient mener une vie reposante avec des siestes, mais surtout ils devaient être au soleil le plus possible et ils devaient bien manger. Alors du coup, comme il y avait dans les villes beaucoup de tuberculeux dans les familles, si un parent par exemple attrapait la maladie, les enfants pouvaient être envoyés dans ce type de structure. Alors, il y avait beaucoup de structures telles que des aériums et ce genre de choses sur le plateau du Vercors. Mais après l'Anfray, la particularité va être que c'est une maison familiale qui va se transformer en lieu d'accueil pour des enfants et qui va finalement rassembler jusqu'à une centaine d'enfants, ce qui paraît incroyable, mais il y avait une énorme demande en bas, ce qui fait que le préventorium, depuis la maison mère, va essaimer un petit peu dans des annexes dans le village.
C'est en quelle année, ça ?
La fondation du préventorium, c'est le 1er juin 1933.
Autant le réfectoire est tranquille lorsqu'il est vide, autant il devient bruyant quand les enfants, bande de démons déchaînés, y entrent pour manger. Alors, ce ne sont que cris et batailles. Le réfectoire, si tranquille auparavant, devient un véritable champ de foire. Quelques bords renversés, deux ou trois enfants qui écrasent une larme au coin de l'œil. Un coup de sifflet bref de Madame Guidi, et tout rentre dans l'ordre. Celle-ci, d'une voix forte, prononce le petit speech quotidien. Si vous ne vous taisez pas, je me verrai dans l'obligation de retarder le dîner.
Alors, je m'appelle Jacqueline Chabuel, je suis née au village en 1945. J'ai vécu au village, j'ai fait mes études à Vif et à Grenoble, au lycée. Et tout ça pour être institutrice, parce que c'était un métier que je voulais faire depuis très longtemps, et je crois que c'était vraiment ma vocation. Voilà.
Jacqueline Chabuel, la modernité est arrivée après l'Anfray, avant la Seconde Guerre mondiale. Comment est arrivée cette modernité et avec qui ?
Alors, cette modernité est arrivée grâce à la famille Lamorte. Celui qui est beaucoup resté au pays, c'était Auguste Lamorte, qui lui n'avait pas de succession. Sa sœur, Hélène Guidi, et c'est elle surtout qui s'est occupée du Prévan. Monsieur Guidi, qui arrivait lui de Nice,
Il est tombé amoureux d'Hélène Guidi et le ménage s'est fondé de cette façon-là. Un enfant est né de ce couple, c'est Georges Guidi, dont on a beaucoup entendu parler et qui a beaucoup œuvré pour mettre en route ce Prévent et puis le faire fonctionner, parce que c'était quelqu'un qui avait des doigts en or, hein. Il savait tout faire de ses mains, il n'avait jamais une minute de repos, et c'est là qu'il a mis toute son énergie pour faire tourner ce bâtiment. Hein. Voilà.
Et Georges, on l'appelle Jo.
On l'appelle Jo.
Alors là, vous parlez du Prévent, nous on l'appelle le Préventorium, mais avant ce Préventorium, il y avait la maison des Tilleuls, où maison... tout a commencé, qu'appartenait à qui cette maison
la
des
La maison des Tilleuls, elle était à Hélène Guidi, c'est là qu'elle s'est installée avec... Monsieur Guidi, André, et puis sa sœur qui était célibataire, Rachel. Rachel, elle était surtout là pour s'occuper de la ferme, parce que les Tilleuls, c'était une maison où il y avait aussi beaucoup d'activités. Ils ont servi de poste, ils ont servi de relais de colis, ils ont servi d'école, ils ont servi de beaucoup de choses. Et ça, ils étaient vraiment au service du village.
Dominique, nous sommes devant la façade de ces tilleuls. D'ailleurs, ça s'appelle les tilleuls parce qu'il y a deux énormes tilleuls juste devant nous qui sont encore vivants, là.
Oui, ils ont été plantés par Jean-Joseph Lamorte à peu près 5 ans, je dirais, après avoir acheté la maison en 1890. Il avait 25 ans quand il s'est installé ici. Tous ses enfants sont nés dans cette maison. Hélène est la deuxième de ses enfants et c'est celle qui est la plus célèbre du fait de son action dont nous parlerons tout à l'heure. Mais il avait toute une nichée, 9 enfants. C'était une maison déjà très vivante dès le départ.
Dominique, nous allons faire le tour de cette maison et pouvoir pénétrer dans cette maison-là où vivaient les enfants, où vivait tout un monde complètement à part et qui était très joyeux. En fait, hein.
Oui, très joyeux, extrêmement vivant, et que les personnes qui l'ont connu à cette époque qualifient de ruche. Alors, nous pénétrons difficilement parce que le lieu n'est pas ouvert au public. Et c'est un peu en confidence que nos auditeurs peuvent entendre le bruit des pas sous les tilleuls. Nous montons sur une petite loggia, dans une petite loggia qui était extrêmement bien faite pour profiter de la vue sur les montagnes et pour être à la fois à l'ombre et au soleil selon les nécessités, et qui donnait sur des pièces dont l'une était une salle à manger et l'autre servait à différents usages en lien avec la collectivité du Préventorium. Alors sous cette loggia, nous voyons bien l'architecture à toit plat qui a été impulsée ici, dans ce village de montagne où tous les toits sont très pentus à cause de la neige, qui a été impulsée par le gendre de Jean-Joseph Lamorte, qui s'appelait André Guidi et qui venait de la vallée de la Roya, c'est-à-dire une région montagneuse dans l'arrière-pays de Nice.
Monique de Lobette, née Pislore. Née Pislore, je suis née après l'Anfray, de juillet 38.
Monique, vous avez un lien particulier avec le Préventorium, parce que vos parents ont travaillé au Préventorium.
Ma mère surtout, qui faisait le linge, qui lavait le linge, mais ça se faisait au tilleul. Ça se faisait pas là-haut à l'époque. Et je me souviens que Jo m'a dit, tu sais, j'en avais marre de voir ta mère trempée dans l'eau et tout. Donc j'ai acheté une machine à laver. Et la machine à laver, c'était une espèce de truc qui tournait. Mais il avait acheté une machine à laver, exprès pour ma mère. Moi, quand je suis rentrée pour faire du ménage à l'époque. Et puis, au bout d'un an, on me dit, tu veux remplacer la cuisinière? Je lui dis, moi, je prends la cuisine, tu fais. Faisait quand même la cuisine pour 70 personnes, hein, en tout, entre le personnel et les enfants. Et après, donc, moi, je suis partie en 57, et puis voilà, quoi.
Monique de Lobette, pouvez-vous nous dresser un portrait de Madame Guidi?
Bon, alors, Madame Guidi, c'était une personne qui était très, très sévère. Bon, moi, avec elle, je me suis quand même bien... Quand j'avais quelque chose à lui dire, je lui disais quand même. Hein. Même que j'avais 15 ans, 16 ans. Hein. Mais il lui fallait une poigne de fer pour mener tout ce qu'elle avait à faire, là, entre les tilleuls et... Mais alors, par contre, aux tilleuls, il y avait la cuisine, mais il y avait la salle à manger, au fond. Et elle mangeait à la salle à manger. Donc, il fallait aller la servir. C'était quelqu'un.
C'est une femme de caractère.
Ah oui, 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 oui.
Alors voici la cuisine du préventorium. C'est une grande pièce qui avait un aspect très moderne quand elle a été créée, quand le préventorium a ouvert. Il y avait de quoi stocker dans ces grands meubles en bois qui font comme une sorte de cuisine équipée, mais presque du plafond jusqu'au sol. Ces grands meubles très bien structurés, à la fois stocker la vaisselle, stocker le linge qu'on utilise dans une cuisine, stocker les produits de longue conservation. Il y avait aussi un abattant où on pouvait couper le pain, lequel pain était fabriqué ici, dans cette table qui était un pétrin, et cuit dans le four à bois, ce qui était très très luxueux pour une maison après l'Enfray, d'avoir un four à l'intérieur et d'avoir aussi l'eau courante sur l'évier, alors que la plupart des maisons, au moment où le préventorium ouvre, avaient un four à l'extérieur et avaient un bassin, c'est-à-dire une fontaine, dans la cour, au mieux dans la cour, ou bien, au pire, dans le quartier. On peut aussi imaginer dans cette cuisine les petits pensionnaires qui venaient prêter main forte, puisqu'ils faisaient quelques corvées, notamment des corvées d'épluchage de légumes. Ils venaient aussi essuyer la vaisselle ou bien aider à porter le pain sur les tables ou à porter les couverts ou à desservir. Toute cette petite activité était une activité de ruche. C'était en même temps très structuré parce que Madame Guidi avait instauré un système qui était inspiré un peu des éclaireurs avec des patrouilles, avec des responsables, il y avait des chefs de table, il y avait tous ces chefs de patrouille qui devaient veiller à la bonne tenue de leurs ouailles étaient bien sûr là pour faire que tout le monde suive la règle qui était « fais de ton mieux ».
Donc une vie extrêmement collective.
Une vie extrêmement collective et aussi une vie où Hélène Guidi aimait responsabiliser les enfants. C'était son credo. Et chaque fois que, par exemple, un enfant a fait un manquement, elle lui, dans son petit discours qu'elle lui adresse, elle dit « je t'avais pourtant fait confiance ». Hélène Guidi jouait énormément sur ce critère, la confiance.
Jeudi, 20 juillet 1939, une corvée.
Tut-tut-tut, ce n'est pas le chef de gare, mais le sifflet de Georges qui nous appelle au rassemblement. Tout le monde arrive. Quelques-uns en rechignant et grognant, d'autres gais et alertes. Chaque patrouille en corvée. Ah, c'était sûrement pour ça qu'ils nous appelaient. Les bancs sont sortis, et la table aussi. Le cajot de haricots est déjà apporté. 2 douzaines de mains habiles plongent dans cette maison pour scalper les habitants et leur arracher bras et jambes. Les troncs seront pour les 107 carnivores. Ouf, la besogne est terminée. Maintenant, la promenade.
Dis, Georges, on est fatigué. N'allons pas trop loin. Fatigué de quoi? Peut-être d'avoir été assis un moment ce matin. Malgré tout, Georges est chic et nous arrête à la sapinière. Là, une bagarre s'élève entre frères Gris, Balou, Tarzan et Bagheera. Les pommes de pin servent de projectiles. On se roule à terre. Après être mort, on ressuscite. Enfin, ce n'est pas la peine de vous dépeindre cette scène. Vous avez dû sûrement voir la jungle en furie. Eh bien, c'était un tout petit peu moins terrible.
Dominique Lardet, dans votre livre « Les enfants cachés des tilleuls », l'on peut voir des exemplaires du journal des tilleuls. Quand je regarde ces pages, elles sont très bien écrites avec des pleins, des déliés, comme on écrivait à l'époque, avec une plume, avec de l'encre. Que racontent ces cahiers, ces carnets, ces pages, Dominique Lardet ?
Alors, ces cahiers racontent la vie quotidienne des enfants et la vie quotidienne de toute la structure du préventorium. C'est-à-dire qu'on y perçoit les activités, les promenades, les siestes, les corvées, la camaraderie, les repas, la cure. Je cite tout cela pêle-mêle parce que c'est dans un foisonnement extraordinaire que les choses nous sont livrées. En même temps, on perçoit une organisation et on voit émerger notamment la figure de Georges Lope qui était un éclaireur et qui a apporté, en somme, dans le préventorium, cette organisation avec des patrouilles, des chefs de patrouille, des sous-chefs, une organisation qu'Hélène Guidi va apprécier beaucoup, car la hiérarchie de l'autorité était assurée.
Claire Pallard, votre mère Francine et vos oncles ont séjourné après l'Anfray. Comment expliquer cette ambiance très joyeuse ici ?
C'était l'œuvre d'Hélène Guidi, la fille d'André Guidi, qui a voulu faire vivre cette grande famille, cette grande communauté qui vivait en autarcie, créer une nouvelle économie et amener à la fois un circuit économique et utile, puisqu'elle avait un cœur grand comme Courrelles-en-Fray, je pense. Elle s'est battue pour ouvrir ce préventorium. À l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques anti-tuberculeux. Il y avait énormément de tuberculose. Et le meilleur moyen de la guérir, c'était de faire des cures en altitude, là où il y a le moins d'oxygène, pour essayer de tuer le bacille. Donc, beaucoup de préventoriums s'ouvraient dans les régions de montagne. Et elle a ouvert ça. Et elle a envoyé un avis d'ouverture à la Caisse des Mutuelles marseillaise, je crois, où travaillait mon grand-père. Et mon grand-père lui a envoyé son fils. Et je pense que c'est l'énergie d'Hélène, aidée de sa sœur Rachel, qui ont permis la vie de cet endroit. Et après, la tribu Guidi ayant une énorme influence sur le village, tout le village a suivi derrière les Guidi. Et probablement, c'est une communauté très riche et très soutenue d'entraide.
Dominique Lardet, nous voici arrivés dans un autre endroit de Près-l'Anfray pour regarder la deuxième construction du préventorium, celle qui a été réalisée après, dans un style qui ressemble beaucoup à du Bauhaus. Il y a eu beaucoup d'enfants ici, Dominique.
Oui, il y a eu beaucoup d'enfants, mais surtout le prévent, comme on l'appelle familièrement, et il a gardé ce nom aujourd'hui, le prévent était construit pour son usage sur la base d'une ancienne menuiserie La Morte, mais complètement modernisée, avec une circulation optimum de la lumière, de la chaleur, et des grands balcons, et des toits en terrasse. Ici, c'était carrément une maison de cure construite pour la cure, encadré par des infirmières et, comme au Tilleul, les pensionnaires étaient visités par le docteur Lamy tous les 15 jours pour vérifier l'état de leurs poumons et aussi de leur développement. On les pesait et on les mesurait tous les jours.
Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y avait, entre guillemets, deux catégories d'enfants au préventorium. Des enfants qui venaient parce qu'ils avaient besoin d'être soignés et des enfants qui venaient pour être cachés.
Ces enfants arrivaient avec de faux papiers, ou bien s'ils n'en avaient pas, on les baptisait sur place d'un nom français. Il fallait que ces enfants soient en sécurité au milieu des autres. C'était ça leur protection. Contrairement aux enfants d'Isieux qui étaient dans une maison d'enfants juifs, encadrés par des juifs. Ici, ils étaient dans une maison fondée par des protestants et ils étaient dans une maison fondée par des rebelles et qui est fondée par des gens qui avaient l'esprit de solidarité. Et c'est dans cet esprit qu'on les mettait en sécurité en les planquant au milieu des autres, exactement comme s'ils étaient des petits Français qui s'appelaient Dupont, Guillemard, Carrel, etc.
...1938, une visite au laboratoire.
En ce moment, M. Guidi et Joe travaillent le miel au laboratoire. Ils partent le matin de très bonne heure et rentrent le soir assez tard. Aussi, Mme Guidi nous a désignés, Crémieux, Francine et moi, à aller porter leur repas de midi. Le premier jour qu'on y est allé, Francine et moi faisions des bonds de joie jusqu'au plafond. Et la gourde, ainsi que le panier, roulèrent plus d'une fois dans le raccourci de Ferrari, malgré les remontrances de Crémieux qui promettait de ne plus nous emmener. Arrivés dans le laboratoire, quelle chaleur ! 35 degrés ! Rendez-vous compte, il y a de quoi mourir. Monsieur Guidi et Joe, le torse nu, ruisselaient. Quant à nous, on les regardait avec des yeux tout ronds.
Claire Pallard, je pense que vous avez lu ces cahiers qui ont été écrits par votre famille, des membres de votre famille et d'autres personnes auprès d'Anfray. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces cahiers? Qu'est-ce que vous en retenez de ces cahiers qui racontaient un peu la vie quotidienne ici après l'Anfray?
Ce qui m'a marqué, c'est la joie de vivre. Moi, j'aurais bien aimé y être. C'était des vacances merveilleuses pour les enfants. La liberté dans la montagne, le scoutisme, toute cette participation organisée, la préparation des spectacles, c'est fabuleux, c'est tout ce qui fait le plaisir des enfants.
Francine commençait à questionner. C'est pourquoi faire cette machine? C'est vrai que le miel cuit est meilleur? Maman trouve qu'il est très cher. Monsieur Guidi nous expliqua la fabrication du miel. Il nous en fit même goûter de pleine cuillère que Dieu nous mettait dans la bouche comme des cataplasmes. Crémieux ne resta pas longtemps dans la pièce, mais nous voulions supporter cette chaleur pour montrer que nous étions si costauds que les hommes et aussi pour manger du miel. Leur travail fini, Monsieur Guidi et Joe se couvrirent et commencèrent leur repas à la fraîcheur du bassin des truites. Lorsqu'ils eurent terminé par une tasse de café, ils se remirent au travail et Joe nous donna encore du miel. Puis il fallut repartir, mais on promit de revenir le lendemain sans faute.
C'était Les enfants cachés de Prélanfray. Merci à Dominique Lardet, Jacqueline Chabuel, Monique Delobette, Claire Pallard et aux élèves de la 3e 5 du collège Le Masségu à Vif. Voix de Daniel Sidlot, extraite des archives du musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. Un documentaire de Dominique Prusac et François Test. À suivre, le deuxième épisode, Un village solidaire.